Bonjour tout le monde. Content de vous revoir ce matin. C'est vraiment agréable de vous revoir et salutations à ceux qui nous écoutent en ligne. Alors, prions juste un instant pour remettre le restant de cet avant-midi entre les mains du Seigneur. Eh bien, notre Père, notre Dieu, on veut te remercier de tout cœur pour cette louange, ce temps de louange, pour ce temps de célébration. Et on te prie qu'avec l'aide de ton Esprit Saint, nous puissions avoir un cœur attentif à ta parole et à la considérer comme elle est vraiment la parole de Dieu. Alors, bénis-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez postulé pour un emploi dernièrement, mais l'une des questions qu'un employeur va poser parfois, pas toujours, mais de temps en temps, il va vous poser la question suivante. Quelle est l'une de tes plus grandes qualités? Et là, les gens vont habituellement répondre, « Ah, je travaille fort, je travaille dur, moi, j'ai pas peur de travailler, me trousser les manches, ou je suis un gars d'équipe ou une femme d'équipe, j'aime ça travailler en équipe, et tout ça. » Donc, c'est des bonnes réponses. Mais c'est très rare que les gens vont répondre, « Bien, je suis une personne douce. » C'est rare. Et pourtant, les entreprises ont de plus en plus réalisé l'importance de voir l'intelligence émotionnelle, cette capacité à comprendre et à gérer nos propres émotions et gérer les émotions de d'autres personnes autour, selon notre attitude, car les entreprises ont appris que c'est indispensable sur le lieu de travail. Maintenant, on va reprendre cette semaine notre série sur le fruit de l'esprit et ce matin, on va regarder justement un aspect du fruit de l'esprit qui s'inscrit justement dans l'intelligence émotionnelle. Et vous allez voir pourquoi dans un instant. Et la semaine prochaine, notre frère Jean-Sébastien Roy va aussi toucher un autre aspect du fruit de l'esprit qui s'inscrit aussi dans l'intelligence émotionnelle. Donc, d'ici deux semaines, si vous êtes là, d'ici deux semaines, on devrait finalement se retrouver des meilleurs employés. Alors, vous direz à votre patron, c'est à l'église de Sentier qu'on apprend toutes ces belles choses-là, donc tu peux envoyer un chèque. Alors, on reprend le passage qu'on a lu depuis plusieurs mois, le Galates 5, 22. C'est ce verset qui parle justement du fruit de l'esprit. On va le relire à nouveau. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Maintenant, il y a un pasteur du nom de Béthune qui écrivait sur le fruit de l'esprit, a rapporté ceci, il a dit, « Il n'y a peut-être pas de grâce moins priée ou cultivée que la douceur. » Les gens ne parlent pas beaucoup de la douceur. Cette semaine, d'ailleurs, j'ai fait une recherche sur Chrome, sur Google, avec le mot « douceur ». Je dis, tiens, douceur, puis j'ai laissé la machine partir, puis faire des recherches à travers le monde et des millions de données à travers le monde. Et là, wouh! C'est revenu avec essentiellement deux genres de réponses. La première, beaucoup de définitions, beaucoup de dictionnaires qui définissaient c'était quoi la douceur. Et la deuxième, des desserts. Et c'est vrai que c'est vraiment la douceur et les desserts. D'ailleurs, il y a même un commerce ici à Gatineau qui s'appelle la balade des douceurs. Ah! Qui a déjà été là? Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il va y avoir une bonne semaine cette semaine, un bon chef d'affaires. Ah non, mais c'est fou, là, c'est vraiment bon. Alors, vous saluerez Antoinette pour moi. Je vois pas souvent, non, je vois pas tellement souvent. Mais à part des définitions comme des desserts ou des définitions de dictionnaire, l'une des raisons pour lesquelles on ne parle pas beaucoup de la douceur, en tout cas, on n'en fait pas tellement de cas, c'est probablement parce qu'on a une mauvaise compréhension de la douceur. Parce qu'honnêtement, lorsqu'on pense à la douceur, on pense souvent à de la faiblesse. C'est probablement ce qui explique qu'à l'époque de l'Empire romain, dans le temps de Jésus justement, la qualité de la douceur n'était pas tellement appréciée ou du moins certainement pas tellement soulignée. D'ailleurs, l'Empire romain valorisait plutôt la force, l'autorité et les prouesses militaires. On pense que la douceur égale faiblesse. Mais Dieu dit absolument pas. En fait, il dit que les personnes douces sont les personnes les plus fortes. Les personnes faibles sont en fait les personnes agressives, arrogantes, orgueilleuses. Ce sont ceux qui bousculent les autres, des personnes méchantes et qui rapportent des commérages. Maintenant, voici une définition de la douceur. Lorsque le Nouveau Testament parle de la douceur, le mot signifie en fait de la force sous contrôle. Une force maîtrisée. Une personne douce ne réagit pas de manière excessive. Une personne douce ne se laisse pas dominer par ses émotions. D'ailleurs, à l'époque, ce mot que nous avons dans l'original et qu'on a traduit par douceur, le mot était utilisé quand on parlait d'apprivoiser des animaux sauvages. Si vous allez dans des champs et vous vous trouvez avec un cheval, un pur sang sauvage qui est débridé, il peut être très dangereux. Le cheval, c'est puissant. Il peut vous donner des coups de pied, même tuer à l'occasion. Mais si vous emmenez ce cheval et que vous l'apprivoisez, sa force est maîtrisée et le cheval est désormais utile pour son maître. Un cheval apprivoisé n'est pas moins fort qu'un cheval sauvage. Il est aussi vite et aussi fort que l'autre. Un cheval dompté, un cheval doux, est un cheval dont la force est maîtrisée et il devient donc utile pour son maître. Alors, un homme de Dieu qui est doux, une femme de Dieu qui est douce, signifie pas qu'ils sont faibles. Ça veut dire qu'ils n'agissent pas de manière excessive. Ils sont au contrôle de leurs émotions et leur force, leur puissance est sous contrôle. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je voulais donner le titre de ce message, la puissance de la douceur, la force de la douceur. C'est intéressant que le passage qu'on a lu dans Galates 5 tantôt, où il est question justement du fruit de l'esprit, Paul met en contraste les œuvres de la chair et la douceur. Et la liste des œuvres de la chair comprend la haine, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions. Et la douceur est particulièrement l'envers, donc, de la colère. Et comme fruit de l'esprit, la douceur biblique, là, comme on va le voir tantôt, la douceur telle que la Bible la définit est vraiment un débordement de l'amour de Dieu. C'est beaucoup plus qu'un trait de caractère que l'on voit dans la société. Alors regardons ensemble quelle est cette douceur que le Saint-Esprit produit et veut produire en chacun d'entre nous. Le Nouveau Testament met en avant principalement deux dimensions à la douceur. Tout d'abord, notre attitude envers Dieu et l'autre dimension concerne notre attitude envers les autres. Mais avant de regarder ces deux dimensions, on a besoin de voir l'incarnation de la douceur, Jésus-Christ. Jésus incarne la douceur à la perfection. Pensez à la douceur, pensez à Jésus. Laissez-moi vous montrer trois images de Jésus qui nous montrent sa douceur. Et ça va nous aider aussi un peu à voir quelques éléments de la douceur. Parce qu'on est en train de regarder et définir un peu la douceur telle que la Bible la révèle. Tout d'abord, Jésus est le doux berger. Dans Ésaïe 40, par exemple, verset 11, « Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. » C'est une prophétie à l'endroit du Messie qui doit venir, et évidemment qui s'applique à Jésus. « Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine, il conduira les brebis qui allaitent. » Le mot « conduire » ici est l'idée d'escorter avec soin, conduire avec précaution. Ce passage parle de Dieu, c'est une image, un portrait de Dieu qui a été accompli ultimement avec Jésus-Christ. Le verset 10 du même passage dit ceci, « Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. » Dieu est puissant, il vient comme un berger et il prend soin de ses enfants dans le besoin. Il en prend soin comme un berger. Il s'occupe de ceux qui lui appartiennent. Il le fait en tant que berger. Il accueille les agneaux, il les prend dans son bras et les porte contre sa poitrine et il conduit doucement ceux qui ont besoin d'aide. Maintenant, c'est une superbe image de la puissance, de la majesté et de la force de Dieu qui démontre son autorité, sa souveraineté. Mais malgré ça, il descend jusqu'à nos vies et nous traite avec douceur et avec délicatesse. Jésus est donc le doux berger. Et il est également le doux serviteur. Ésaïe 42, une autre prophétie envers le Messie qui va venir, qui est Jésus. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. » Un jour, Dieu va rétablir le monde tel qu'il l'a voulu. Tout sera réparé, tous les torts seront corrigés. Et lorsque ce serviteur viendra, nous dit Ésaïe, il ne criera pas fort, n'élèvera pas la voix, et il ne sera pas orgueilleux. En fait, il sera tellement doux qu'il ne brisera même pas le roseau qui est déjà abîmé. Ésaïe 42, verset 2, dit ceci, « Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues, il ne cessera pas le roseau abîmé, il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. » En d'autres mots, il fera pas mal à une mouche. Et c'est ça qui est arrivé lorsque Jésus est venu. Il ne faisait que du bien aux gens. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. En d'autres mots, il dira jamais « Débarrassons-nous de lui ou de elle, elle n'est pas utile, pas profitable, jamais. » D'ailleurs, ce passage est cité par Matthieu, chapitre 12, mais à l'endroit de Jésus. Jésus s'éloigna de là, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades, il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Et là, il va citer tout ce passage dans Ésaïe. Une autre image pour Jésus qui montre sa douceur est le genre de roi qu'il est. Il est un roi doux. Zacharie 9:9 dit, Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Imaginez, voici le roi de l'univers, le créateur de tout ce qui existe, le Seigneur de gloire, qui descend dans le temps et se fait connaître avec une tendresse et une douceur incroyables. N'est-il pas intéressant de voir comment Jésus lui-même s'est présenté, s'est fait connaître comme une personne douce? Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux. » Tu ne vas pas à une personne qui est agressive. Tu vas fuir une personne qui est méchante ou tu sens qu'il va te rejeter, te mépriser. Mais notre Seigneur Jésus n'est pas comme ça. Il est doux. Il a été doux avec ses disciples. Quand il a vu que ses disciples étaient fatigués, qu'est-ce qu'il a fait? Nous lisons dans Marc 6, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Il avait cette sensibilité, cette douceur. Maintenant, les trois portraits que nous avons dans les prophéties de l'Ancien Testament sont des prophéties noir et blanc, mais lorsqu'on arrive au Nouveau Testament avec Jésus, on voit toutes ces choses se réaliser en couleur. Jésus est l'incarnation de la douceur. Et c'est ce qu'il veut produire en nous parce qu'il veut que l'on répande la douceur. On a l'exemple de Saul, par exemple. Si tu veux voir une évidence de la véracité, de la puissance de l'Évangile, tu as juste à regarder la conversion de Saul qui est devenu l'apôtre Paul. Lire son témoignage, c'est voir un changement spectaculaire quand il s'est converti au Seigneur Jésus. Avant de se convertir, c'était un tyran. Il a été présent à l'exécution, d'ailleurs, Étienne, qui était un homme de Dieu. Les gens avaient tellement peur de lui, car il mettait les gens en prison. Il rentrait de force chez les maisons, dans les maisons. Il avait tous les droits de tous les chefs religieux en Israël. Il rentrait dans les foyers des chrétiens, les jetait dehors dans la rue, les jetait en prison. Il y a même eu des morts. Les chrétiens avaient tellement peur de lui que lorsqu'il est devenu un chrétien, les chrétiens ne croyaient pas qu'il était rendu un chrétien. Ils avaient peur de lui. Ils voulaient pas s'associer avec lui. Et ils avaient peur qu'il se présente à l'une de leurs célébrations. Ça m'est déjà arrivé en passant. Ça m'est déjà arrivé d'être un peu nerveux que quelqu'un se pointe à notre célébration. En fait, on est bien content quand les gens viennent à l'église, on est content de vous voir, mais c'est arrivé dans ma vie, à un moment donné, où j'étais un peu nerveux que quelqu'un vienne à l'église. Voici ce qui s'est passé. J'étais à Laval, à l'époque, j'étais pasteur à Laval, Laval-Est, et puis là, tout d'un coup, il y a une femme qui s'est convertie au Seigneur Jésus. Vraiment, c'est converti, une belle conversion, la personne vient au Seigneur Jésus, commence à venir à l'église. Ça donne son mari, qui était vraiment un cadre dans un haut placé, très haut placé, dans une compagnie très connue au Québec, très haut placé, apprend que sa femme se convertit, elle lui parle de Jésus et tout ça, et il devient excessivement agressif, en colère, parce que sa femme est devenue une chrétienne, un enfant de Dieu. En colère, et tellement en colère qu'il lui dit ceci. Il dit, donne-moi l'adresse de ton église. Alors, elle a l'adresse, il lui donne l'adresse de l'église, et tout ça. Il dit, dimanche prochain, je m'en viens avec un gun, puis je m'en viens tuer ton pasteur. Elle m'a averti, puis j'ai dit, OK. Elle a dit, écoute, je connais mon mari, il est tellement mauvais, il pourrait le faire. Là, j'ai compris pourquoi certaines églises aux États-Unis, il y a des tribunes comme ça avec des panneaux pare-balles. Tu fais ça arrive. Alors, vous pouvez imaginer, vous êtes un peu nerveux dans l'église, particulièrement moi, j'étais un peu nerveux. Alors, je suis allé voir un gars dans l'église, il s'occupait du bâtiment, puis tout ça. Puis, je suis allé voir un gars dans l'église, puis il s'appelle Richard. Il est décédé aujourd'hui, là, ça fait quelques années, tout ça. Et puis, je suis allé voir Richard. Maintenant, je lui dis, Richard, écoute, voici ce qui se passe. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, le mari d'une telle et tout ça. Fait que quand il va rentrer, si jamais tu vois quelqu'un que tu connais pas, puis tout ça, ben, ça se peut que ça, tu sais. Maintenant, il faut connaître Richard. Richard, avant de se convertir au Seigneur Jésus, c'est un gars qui allait régulièrement dans les clubs pour se battre. Ah non, c'était un tough. Il était tellement mauvais, là. Mauvais avant de se convertir. Agressif, mauvais. Il se battait régulièrement dans les clubs. Tellement mauvais qu'un jour, il était dans un club, puis il s'est pogné, il s'est battu avec un Hells Angels. Hey, il était tellement agressif, tellement... Écoute, le barman a téléphoné la police rentre dans le club... Essayer de l'arrêter, pas capable. Ils se sont mis deux policiers, ils l'ont pris dans les jambes, ils l'ont soulevé de terre, puis là, il sortait du club, les fesses de ce côté-là, puis il regardait en arrière encore le Hells Angels, puis il est encore en train de crier, « M'a tué, m'a tué! » Le Hells Angels a dit ceci. « Moi, là, j'ai pas peur de personne, mais lui, il me fait peur. » Quand un Hells Angel te dit qu'il a peur de quelqu'un, c'est juste pour te dire, le gars, il était mauvais. Mais ce gars-là s'est converti au Seigneur Jésus. Amen? Ah oui, amen. Hey, gloire à Dieu. Ce gars-là est devenu doux comme un agneau. Alors, je suis allé le voir, mais j'ai dit, écoute, Richard, ça se peut, etc. Il met la main comme ça, puis il dit, Normand, inquiète-toi pas. Je m'en occupe. J'étais tranquille. Ben, de temps en temps, je regardais, voir si c'est... Richard est là, Richard est... En tout cas, pendant quelques semaines, Richard est devenu mon garde du corps. Mais c'est beau de voir la conversion de ce gars-là. Et c'est ce qui est arrivé à Saul. Mais les chrétiens avaient peur de lui parce qu'ils pensaient que c'était une ruse pour attraper les chrétiens. Mais il avait changé du tout au tout par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit produisait en lui ce beau fruit de l'Esprit qui est la douceur. Imagine, ce gars-là, là. Un tueur de chrétiens, persécuteur, qui devient un homme doux. Tellement qu'on peut voir Paul écrire une lettre aux Thessaloniciens. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il leur dit, Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. » Écoutez, c'est Paul, le même gars, là, tellement agressif, en colère contre les chrétiens. Dieu avait changé son cœur et était rendu une personne douce. Paul n'aurait jamais connu cette douceur sans la grâce de Dieu, sans l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Parce que c'est un gars, c'est un blasphémateur, c'est un persécuteur de chrétiens. Mais voilà que Paul parlait maintenant avec douceur, puis il exhortait les gens à agir avec douceur parce qu'il était bien conscient de toute la grâce que le Seigneur Jésus lui avait faite. Il va dire d'ailleurs dans Philippiens 4:4, vous connaissez Philippiens 4:4? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Virgule, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, quelle est cette douceur que le Saint-Esprit veut produire en nous? Bien, le Nouveau Testament met en avant deux dimensions de la douceur. Tout d'abord, notre attitude envers Dieu, et l'autre dimension concerne notre attitude envers les autres. Alors, on va commencer avec la première. La douceur envers Dieu s'exprime d'abord par ma soumission envers Dieu. C'est-à-dire, je suis enseignable. J'ai un esprit enseignable. Jacques 1:21 dit « Rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Accueillez avec douceur la parole. La douceur et l'humilité du cœur se révèlent dans la façon dont on écoute l'enseignement de la parole de Dieu et qu'on la met en pratique. Deuxièmement, la douceur envers Dieu s'exprime aussi avec un cœur repentant. Le mot « repentant » signifie changer, changer de comportement, changer de pensée, changer d'attitude. Ça veut dire que lorsque je suis exposé à la vérité de la parole de Dieu, j'ai besoin d'être prêt à vouloir changer de comportement ou de pensée à la réponse de cette vérité qui vient de m'être annoncée. C'est Luther qui a dit que la repentance est une activité quotidienne. On a besoin de se repentir à tous les jours, de repenser à notre journée, tout ça. Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu aujourd'hui? Sonde mon cœur, comme David, sonde mon cœur, connais mon cœur, toutes les pensées dans mon cœur. Troisièmement, la douceur envers Dieu s'exprime aussi par une foi confiante. Même quand ça va mal. On voit dans les Écritures, en fait, que les épreuves nous font grandir quand on fait confiance au Seigneur. Oui, ça fait mal, on souffre, mais on a besoin de faire confiance au Seigneur Jésus. On a besoin de croire que les choses que je ne veux pas avoir dans ma vie sont celles-là même qui, dans ma vie, vont faire de moi la personne que Dieu veut que je sois. Moi, je ne veux pas être malade, je ne veux pas être déçu, je ne veux pas que mon cœur soit brisé. Je veux rien de tout ça. Mais Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Et il s'est engagé à transformer ses enfants à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus, à nous rendre semblables à Jésus, dans la douceur comme dans tout le reste. Avoir de la douceur dans ma relation avec Dieu va donc s'exprimer par ma soumission envers lui, envers sa parole, avec un cœur repentant et une foi confiante. Maintenant, la douceur va également influencer ma relation avec les autres. Ça, c'est l'autre dimension de la douceur que l'on voit dans le Nouveau Testament. Et elle concerne vraiment notre attitude envers les autres. Un esprit doux aura de la compréhension, de la considération pour les autres, sera sensible aux besoins des autres et des préoccupations des autres. Une personne douce sera prévenante, généreuse, juste. Elle sera pas rigide ou exigeante. Elle fera preuve de douceur et de sensibilité face aux pressions et aux insécurités de ma famille, des membres de ma famille, ou même de mes amis, de mes collègues de travail. Crois-le ou non, mais la douceur va même avoir un impact sur ta façon de conduire. On entend souvent ça, hein, la rage au volant, les gens impatients, agressifs. Et cette semaine, j'écoutais un podcast qui était une entrevue avec une femme qui racontait qu'elle s'était donné comme objectif cette année, pendant toute l'année, là, de laisser passer les voitures qui voulaient la couper puis prendre sa place. Vous savez, quand tu es sur l'autoroute, là, puis il y a quelqu'un qui embarque sur la bretelle, veut embarquer sur l'autoroute, on dirait qu'il pèse jusqu'au fond puis il veut pas te laisser. Mais toi, tu es là, tu roules, là. Puis là, puis il se dépêche, puis il ne fera pas te céder. Il ne cédera pas, là. Il va s'en aller bien vite pour essayer de te dépasser pour rentrer. Mais cette personne-là a décidé que pendant toute l'année 2024, était pour laisser ces gens-là, vas-y. Hey, t'as serré ça cette semaine? C'est pas évident. Surtout quand tu es pressé. Ça prend la grâce pour ça, hein? Et qu'en est-il de nos échanges avec les gens quand on n'a pas le même point de vue que l'autre? Eh bien, la douceur désamorce les conflits. C'est un antidote vraiment à la colère. Proverbe 15:1 dit « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Si tu te retrouves dans une chicane et l'autre personne hausse la voix, qu'est-ce que tu fais? Baisse la tienne. Baisse la tienne. Tu vas te sauver bien des problèmes dans ton mariage, dans ta façon d'élever les enfants, aussi avec tes amis, dans tes relations de travail. Ça s'appelle la force sous contrôle. La douceur construit des ponts par des paroles empreintes de prudence et de grâce. Elle désamorce les conflits et fait baisser les tensions. Quand on est embarqué dans une dispute, il suffit d'un seul mot de trop parfois pour détruire une relation, pour que se dresse un mur d'amertume qui peut durer pendant des années, peut-être même toute la vie. Mais la réponse douce signifie que l'on exprime avec patience, tendresse, que l'on cherche vraiment autant que possible à encourager avec calme. Oui, une réponse douce doit être pleine de vérité. On ne doit pas acheter la paix en faisant croire toutes sortes de choses. Non, une réponse douce doit être pleine de vérité, nous dit Éphésiens 4. Mais elle doit refléter notre préoccupation pour l'autre sans aucune volonté de nuire. Parce que la douceur communique l'amour. La meilleure façon d'améliorer notre mariage, c'est de parler avec douceur. Je vais prendre un verset qui s'adresse aux maris, mais il s'est appliqué aussi pour les femmes ailleurs dans les Écritures, d'accord? Donc, si Marie vous sentez visée, c'est correct, mais les épouses aussi. Moi et vous, mesdames, on est toutes appelées à ça. Colossiens 3:19 qui dit ceci, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Drôle de mot. Le mot « aigrisser » dans l'original veut dire ne provoque pas de l'amertume chez ton conjoint. Ne lui cause pas des sentiments amers. Et c'est vrai aussi dans notre façon d'élever les enfants. Pensez à ce passage dans Éphésiens 6, 4 qui dit, hein, n'est-ce pas, « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Et on voit pourquoi dans le Colossiens, un autre passage qui dit la même chose, va ajouter de peur de les décourager. Pensons à Jésus avec ses disciples. Ses disciples l'ont laissé tomber à Gethsémané au moment même où Jésus avait le plus besoin d'eux. Mais ses paroles étaient remplies de douceur, nous dit Matthieu 26. Aucune rancœur. N'est-ce pas merveilleux que la douceur, c'est un fruit de l'esprit? En d'autres mots, on peut être plus doux. On peut agir avec douceur grâce au Seigneur et avec sa puissance. Et c'est ce que Dieu veut produire en nous. Il peut le faire, il veut le faire, c'est sa volonté. Mais on a besoin de son aide. On ne peut pas répandre toute cette douceur envers Dieu et envers les autres sans son aide. Et lorsque Jésus touche une personne, le Saint-Esprit commence à faire une œuvre extraordinaire dans cette personne. Et l'une de ses œuvres surnaturelles, c'est de rendre une personne plus douce. J'inviterai les musiciens à venir. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a un homme à Laval qui... On va l'appeler François. C'est une histoire vraie, mais je vais juste changer les noms. Il y avait deux frères. Alors, ils étaient trois garçons, François, Tony, le milieu, le gars du milieu, et le plus jeune, Jean. Alors, et ce François va à Granby pour se faire former par une compagnie qui avait plusieurs employés en devenir. C'était des candidats. Alors, ils voulaient les former. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont emmené des gens à Granby. Et ils ont placé les candidats dans une chambre deux par deux. Alors, François s'est retrouvé dans une chambre avec un autre individu pendant toute la semaine. Et ça donnait que cet individu-là était un chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a partagé sa foi, partagé l'Évangile pendant toute la semaine. Et à la fin de la semaine, François s'est converti au Seigneur Jésus. Alors, il revient à la maison. Il faut savoir qu'il reste avec le plus jeune. Le plus vieux et le plus jeune restent chez leur mère. La mère est divorcée depuis quelques années. Le mari reste ailleurs. Et puis, le frère du milieu reste dans un logement avec sa copine. Alors là, François revient à la maison, à Laval, parle de Jésus, de son expérience, qu'est-ce qu'il vient de vivre et tout ça, parle de Jésus au plus jeune, qui est Jean, et Jean se convertit au Seigneur Jésus. Et là, son frère du milieu apprend ça. En colère, fâché, il s'en va chez François, cogner la porte bien fort. Et François répond, et là, lui dit, il pointe son doigt comme ça, puis il lui dit, écoute-moi bien, toi, là. Là, tu es en train de parler de Jésus, je ne veux plus jamais t'entendre parler de Jésus. As-tu compris? Tu es en train de diviser la famille. La prochaine fois que j'entends dire que tu parles de Jésus, il m'a donné un coup de poing en face. As-tu compris, là? Puis il l'aurait fait. C'est le gars qui était le plus bâti de la famille, les autres étaient très, très minces. Et lui, était vraiment bâti, puis mauvais. Il se battait, là, des fois, dans des clubs et tout ça. C'était un gars, là, qui l'aurait fait, là. Alors là, il m'appelle. François m'appelle. Elle dit, normalement, qu'est-ce que je fais? Mon frère vient de me menacer. Il dit, si je parle encore de Jésus, il va me battre. Hi, citron. Fait que là, j'ai dit, écoute, bien, regarde bien ce qu'on va faire. On va prier. Qu'est-ce que tu veux faire? On va prier. Fait qu'on a prié pour ça. Même à la réunion de prière, on a prié pour ça. T'sais. Fait que ça donnait que quelques temps après, et là, on parle de... Tout ça s'est passé en quelques semaines, là. Sa mère s'est convertie. Alors, la mère s'est convertie. Le plus vieux est converti, le plus jeune, converti. Et là, la mère vient d'accepter le Seigneur, téléphone son ex-mari, commence à lui partager l'Évangile, lui dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Et au milieu de la conversation, elle dit à son ex-mari, qu'est-ce que tu dirais si on revenait ensemble? Évidemment, il a dit oui et tout ça. Et là, il y a le baptême du plus jeune, le dimanche qui s'en vient. François m'appelle, je suis en train d'enseigner à Bethel, à Sherbrooke, un cours. Alors, il m'appelle, il dit, « Hey, Normand, il dit, écoute, je ne sais pas ce qui va arriver, mon frère veut venir absolument au baptême dimanche, puis il a dit qu'il veut absolument te parler. » Il dit, « Il veut te voir. » Il m'a demandé ton nom, puis il veut absolument d'aller te voir. Il veut te parler, il va venir au baptême. Là. Mais il dit, « Quoi? » Je dis, « Tu me battes, toi? » Il dit, « J'ai aucune espèce d'idée. » Il me répond ça. J'ai aucune espèce d'idée, normal. Il m'a rien dit. Aïe, aïe. Ouais, là, j'avais le goût d'appeler Richard encore. Mais, Là, j'arrive le dimanche suivant, c'est le baptême et tout ça, là, je baptise le plus jeune et tout ça. Puis après le service du baptême, on a un beau lunch. Alors là, il y a une longue file d'attente. Et puis là, il y a lui, Tony, qui est en plein milieu de la file d'attente avec sa copine. Il est là, puis il dit, écoute, il dit, c'est toi le pasteur? Ça? Bah, je l'ai... J'aimerais ça te parler tantôt. Pourrais-tu venir te voir, me voir, là?
Oui, c'est correct.
Alors, je m'en vais là-bas. Puis effectivement, je m'en vais. Puis c'est pas agressif du tout. Je m'en vais m'asseoir à sa table et tout ça. Puis on commence à jaser. Puis il y avait un paquet de questions, tout ça. Quelques jours passent, en plein milieu de la semaine, mon François me téléphone pour me dire, écoute bien, Normand, c'est sans savoir une bonne. Tony vient d'accepter le Seigneur. Amen. Oui, gloire à Dieu. Hey, gars. Sa copine s'est convertie. Je les ai tous baptisés. Toute la famille. Le père s'est converti. Toute la gang. Et puis, c'était beau de voir la puissance dans leur vie. Amen. Hey, aïe, aïe, c'est bon. Seigneur Jésus, on veut te remercier de tout cœur pour la puissance de l'Évangile dans nos vies, pour tous ces beaux fruits de l'Esprit dans nos vies, Seigneur. Combien tu vas, tu attendris nos cœurs, des cœurs qui étaient pleins d'amertume et de colère, et tu en fais un temple pour Dieu. Tu fais des cœurs d'adorateurs. Merci, Seigneur. Amen.